Je me souviens.
Je me rappelle. Tu te souviens ?
Elle se rappelle.
Elle se souvient.
Il se rappelle.
Ça a été comme une lumière dans la nuit, un flash. Nous avons tous vécu un événement marquant qui a été un accélérateur de vie.
Je me souviens, je me rappelle.
Bonjour à amis auditeurs et bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons Morgane Blanc qui est avec nous derrière le téléphone. Bonjour Morgane.
Bonjour.
Vous vous consacrez, Morgane, à l'élevage des brebis sur le Larzac.
Oui.
C'est une activité passion, peut-être ?
Oui, tout à fait, on peut dire ça. Moi, je suis du coup éleveuse fromagère.
Oui.
Donc, j'élève des brebis laitières et je transforme leur lait en fromage, tomes de brebis, yaourt. Voilà.
C'est une activité que vous avez choisie ?
Oui, tout à fait, que j'ai choisie. Mes grands-parents étaient éleveurs, mais mes parents non, donc c'est pas du tout une reprise familiale. C'est vraiment un métier que j'ai choisi, oui.
Voilà, donc la passion des brebis, la passion des animaux peut-être ?
Oui, j'ai toujours été attirée par les animaux. J'étais toujours à la ferme chez mes grands-parents quand j'étais petite. Après, j'ai fait d'autres études, dans le milieu agricole quand même, mais qui ne me destinaient pas forcément à m'installer tout de suite en tant qu'éleveuse, on va dire. Et voilà, j'ai fait ce choix-là, finalement, après mes études, de m'installer en tant qu'éleveuse, parce que je trouvais que c'était le plus logique, voilà.
Alors, Larzac, c'est un horizon très évocateur pour nous. Un autre horizon plus lointain, donc, dans lequel vous étiez au mois de septembre 2014. Racontez-nous.
Oui. Alors, je me suis installée sur le Larzac en 2010.
Oui.
Et en 2014, donc, j'ai fait un voyage de 3 semaines donc, au Kyrgyzstan.
Oui.
Où en fait j'avais travaillé un petit peu en Mongolie avant de m'installer. J'avais des relations qui étaient au Kyrgyzstan. Et voilà, de par ces relations, et puis ma sœur qui avait fait une randonnée en fait à cheval. En allant de famille d'éleveurs en famille d'éleveurs. J'ai fait ça pendant 15 jours.
Oui, donc on imagine des horizons très ouverts avec des steppes. Très montagneux. Et donc, c'était donc au cours de ce voyage, de ce périple que vous avez fait, vous êtes tombé face à face avec un loup.
Oui.
Oui.
Racontez-nous. Alors, en fait, au Kyrgyzstan, il y a beaucoup de loups, beaucoup de meutes, et des éleveurs qui vivent un peu au milieu des meutes. Alors, il se trouve que le loup que j'ai rencontré n'était pas du tout dans la montagne sauvage, mais dans une cage, dans une cage, en fait, donc chez des éleveurs, dans une cour au milieu des habitations. Et en fait, ce loup avait été capturé quand il était petit, et il était destiné à être vendu en fait à des entraîneurs de chasse à l'aigle. En fait, là-bas, les éleveurs traditionnellement chassent les loups pour protéger leurs troupeaux, etc. Et il y a donc de la chasse à l'aigle. Donc les aigles, sont entraînés pour aller chasser le loup, pour aller en tout cas.
D'accord. Donc pour aller chasser le loup, donc il cède d'animaux pour aller chasser d'autres animaux, c'est ce que vous êtes en train de me dire.
Ouais.
Et donc en tous les cas, ça vous a amené à méditer. Racontez-moi.
Oui. Mais en fait, moi j'avais jamais vu de loup comme ça aussi près. Donc il se trouve que là, on a pu s'observer un petit moment, lui et moi, lui derrière son grillage. Et c'est sûr que j'ai compris un petit peu pourquoi.
Vous l'avez regardé droit dans les yeux, comment vous observez, expliquez-moi comment vous l'avez observé.
Je le regardais droit dans les yeux et lui, il me regardait aussi droit dans les yeux. J'ai senti quelque chose dans le regard d'assez puissant, un peu intelligent, comme on pourrait dire, même si c'est de l'anthropomorphisme. Hein. Et ça m'a pas mal bousculé ce moment. Ça m'a un peu questionné sur la place que je pouvais avoir, la place que lui, en tout cas les loups en général, pouvaient avoir.
Alors, vous êtes imaginé dans plusieurs situations, par exemple, où vous alliez délivrer ce loup.
Parce que forcément, première réaction, quel pauvre loup, donc... Donc je me suis dit, bon, alors je vais peut-être le délivrer, mais bon, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il risque d'égorger les moutons, les animaux de la ferme, et puis c'est moi qu'on va mettre dans la cage, parce que,
oui.
Parce que bah, voilà, c'est pas comme ça que ça marche là où je suis, quoi. Voilà, puis au final, j'ai essayé de réfléchir à plusieurs solutions, mais bon, je suis partie et je l'ai laissé comme ça dans sa cage, quoi.
Et vous l'avez laissé dans sa cage.
Oui.
Et vous avez changé votre point de vue, en fait. Parce
oui.
que, en fait, vous êtes éleveuse de brebis, donc vous êtes dans voilà. un secteur qui est le Larzac. Et est-ce oui. que vous êtes concernée par le loup sur votre territoire?
Oui, oui, alors depuis peu de temps, hein, parce que jusqu'ici, il n'y avait pas de loup dans la région. Là, il n'y a pas encore de meute installée, mais il y a des loups de passage, donc il y a régulièrement des attaques, chez mes voisins notamment. Moi, mon troupeau n'a jamais été attaqué, mais c'est quelque chose qui est en train d'arriver, ouais.
Ouais.
Et alors,
vous êtes rentré en empathie avec ce loup, en même temps, donc il y a les prédations qui sont faites par les loups, donc sur les troupeaux. Comment vous vous sentez par rapport à cette situation, surtout depuis que vous avez abordé ce loup?
Mais en fait, moi, j'ai l'impression que c'est voilà, ce tête-à-tête là, avec ce loup, ça m'a fait prendre conscience. Quand je le regarde, donc ce loup qui me regarde dans sa cage à travers le grillage avec son regard si intelligent, c'est marrant, on dirait qu'il sourit un peu, que toutes mes questions le font rire en coin, qu'il rit de mon esprit de femme occidentale autocentrée, trop étroit pour comprendre le sens du monde. On dirait qu'il les a, toutes les réponses à mes questions. On dirait qu'il a même les réponses aux questionnements sur ma propre vie. On dirait qu'il sait où est ma place. En fait, je pense que, bon, en étant éleveuse,
oui.
cette question du loup m'a pas mal travaillé. Et je pense que j'étais un peu bloquée dans cette vision du monde que je dirais un peu de société occidentale
oui.
qui est. Donc il y a l'homme d'un côté et la nature de l'autre.
Oui.
On distingue bien les deux. Et la nature, tout est joli, tout est beau. Et l'homme, le méchant homme, il détruit tout. Voilà. Qui est quand même relativement vrai,
oui,
malheureusement.
Oui.
Mais en fait...
Une position tranchée, quoi, vous voulez
voilà,
dire.
Position oui. tranchée, oui. complètement binaire, et où il
oui.
n'y a pas de...
D'espace.
C'est blanc ou noir,
oui.
quoi. Il n'y a pas d'entre-deux. Et en fait, d'être en contact avec les éleveurs qui vivent,
oui.
bon, avant,
oui.
qui, eux, en fait... Je me suis rendu compte, alors ils chassent le loup, hein,
oui.
évidemment, hein, c'est le tue. Hein, si jamais un loup plusieurs fois vient attaquer le troupeau, il le tue, ils le poursuivent. Voilà.
Oui.
Mais par contre, s'il y a une meute à côté et qu'elle ne touche pas au troupeau, les éleveurs les laissent tranquilles. En fait, bien sûr, ils le chassent, mais il y a un profond respect en fait pour cet animal. D'ailleurs, dans leur cosmologie, c'est très important, ils le respectent. Donc c'est un peu un partage de territoire.
D'accord.
Et c'est ça, c'est en ça que du coup de voir un peu ces éleveurs, on va dire, on appelle ça les peuples premiers, que ce soit
oui,
les éleveurs ou les
oui.
gens qui vivent dans la forêt. En fait, ce qui me parle, c'est qu'il n'y a pas de distinction. D'ailleurs, dans beaucoup de langages, ça n'existe pas le mot nature. C'est quelque chose qui a été inventé par les naturalistes au moment de l'industrialisation, oui. où effectivement, bon, bah, l'homme a commencé à faire un peu n'importe quoi.
Oui.
Avec la nature, c'est cette espèce de fascination et de contemplation de la nature. Mais en fait, dans les peuples premiers, ça n'existe pas ce mot, parce que c'est mélangé, ils se considèrent vivre au milieu d'un territoire, et du coup partager ce territoire avec d'autres êtres vivants, humains et même non humains.
Oui.
Et c'est un partage de territoire. Et du coup, ça m'a parlé par rapport au loup, parce que moi, j'étais... C'est très difficile d'avoir des discussions avec des éleveurs ou avec des non-éleveurs sur le sujet. Ça part tout de suite pro-loup ou anti-loup. Et c'est
oui.
très difficile, c'est très
oui.
passionné. Et je comprends que ce soit passionné parce qu'il y a quelque chose de très fort avec
oui.
le loup et que j'ai bien vu dans son regard. Et c'est difficile d'arriver à se dire, OK, on essaye de partager le territoire et de se défendre s'il y a une attaque,
oui.
donc de tuer un loup, hein, faut pas que ce soit
oui.
interdit, ça, si
mmh.
tout
oui.
le monde a le droit de vivre
oui.
pour moi dans cette nature.
Rien n'est tabou, oui.
Voilà. Et aussi bah, de le laisser tranquille s'il fait sa vie tranquillement à côté.
Donc une sorte de pacte entre toutes les espèces dont nous faisons partie. Est-ce
Exactement,
que c'est ce que
ouais.
vous voulez dire?
Ouais. Ouais.
Et donc aujourd'hui, votre regard change. Est-ce que vous pensez, vous m'avez parlé des difficultés, que vous pourriez vivre de cette façon-là donc en France? dans votre pratique?
En fait, nous, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une région où le loup n'est pas encore installé. Donc, c'est quelque chose que les éleveurs ne connaissaient pas jusqu'ici. Et donc, il y a une grande réticence, effectivement. Le discours, c'est on ne peut pas... l'élevage pastoral est incompatible avec la présence du loup. Donc, du coup, la majorité des éleveurs refusent même de mettre en place des moyens de protection, comme avoir des chiens de protection, comme des patous, en se disant, si on prend un chien de protection, ça veut dire qu'on accepte la présence du loup. Et nous, on ne veut pas l'accepter. Il faut que les pouvoirs publics fassent en sorte qu'il n'y ait pas de loup chez nous. Voilà, ça, c'est le discours majoritaire, on va dire. Et c'est drôle parce que moi, j'ai aussi des amis qui sont dans les Alpes d'autres provinces, d'ailleurs là où je suis en ce moment chez eux. D'accord. Et eux, ils ont des meutes en fait installées à côté de chez eux. Alors, c'est pas facile, hein, c'est très difficile pour eux. Mais du coup, ils ont des chiens de protection, ils ont mis en place des choses. Oui. Et puis, de toute façon, ils n'ont pas le choix de vivre avec. C'est soit ils vivent avec, soit ils font un autre métier. Donc, je dis pas que c'est facile et qu'ils sont contents de vivre avec. Non. Mais voilà, du coup, personnellement, donc nous, sur la ferme, on a pris un chien de protection. Là, on va en prendre un deuxième pour que tous nos lots de brebis soient protégés. Il se trouve que quand il y a eu des attaques autour, on remarque que les éleveurs qui n'ont pas du tout de chien de protection, ils ont eu des grosses pertes, 10-15 brebis mortes en une seule attaque. Et ceux qui ont un seul chien de protection, même, ils ont eu une ou deux brebis mortes, quoi. Donc, autour de moi, je vois que les personnes qui refusent cette cohabitation, même si elle est, franchement, moi je préférerais qu'il n'y en ait pas, au niveau de confort du travail, bien sûr. Eh bien, c'est difficile, quoi.
En tous les cas, un jour, dans la steppe kirghize, vous avez vu un loup et ça contribue à transformer votre regard. Merci Morgane pour ces témoignages qui nous montrent d'autres façons de vivre avec tout l'univers vivant, du vivant. Je vous dis à bientôt, et à bientôt amis auditeurs.
Merci, à vous, à bientôt.